toutes mouvances confondues, les juifs ultra-orthodoxes partagent le même refus d'ingérence des autorités dans les affaires religieuses, et ce, au nom de la primauté de la Torah sur les juridictions temporelles. C'est ce que nous explique Maurice Rouben Ayoun, il est spécialiste de la pensée juive.
Les juifs, originellement, avaient toujours considéré la loi religieuse, réputée être d'inspiration et d'extraction divine, comme la seule loi apte ou susceptibles de les gouverner. Avec les tribulations de l'histoire juive, les destructions du temple, l'expatriation, la déportation, la dissémination sur toute la surface du globe, il a fallu s'adapter et il a fallu aussi faire droit à la législation civile pour mettre en accord leurs propres lois. Mais là, nous nous trouvons, si je puis dire, entre guillemets, dans un royaume juif, c'est-à-dire dans une république juive, et du coup, ceux qui préservent l'identité juive ancienne disent « Mais qu'est-ce que vous faites? Comment une cour suprême d'un État juif peut-elle donner tort à la poursuite de la judaïsation de cet État et à une sorte de, j'ose pas dire de privilège, mais en tout cas de position supérieure de la loi religieuse par rapport à la loi de l'État. »
Les juifs ultra-orthodoxes vivent généralement en vase clos, dans leur communauté fermée, rangés derrière leurs rabbins et attachés à leur tradition religieuse et à la stricte observance de la Torah. Pourtant, même à l'intérieur de cette mouvance, il convient de distinguer Ashkenaz et Séfarad.
Le mot Séfarad n'a commencé à apparaître qu'après l'expulsion des juifs d'Espagne en 1492. Et pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, dans les sources juives de cette époque, pour dire la mer Méditerranée, on disait la mer Séfarad, Hayam HaSefaradi. Et puis parallèlement, vous avez effectivement un judaïsme issu du nord de la France, du nord-est, de l'Allemagne de l'époque des États germaniques, qui a essaimé en Pologne et qui a mené une vie à lui. Mais les différences liturgiques sont extrêmement minimes. Et elle ne touche que les parties introductives ou les parties de conclusion. Les prières dites statutaires, c'est-à-dire le schéma Israël, les 18 bénédictions et puis les actes de contrition sont strictement les mêmes. Les divisions de lecture de la Torah le samedi sont identiques. La célébration des fêtes est identique, mais ça pose le problème de l'homogénéité de l'identité juive. L'identité juive a toujours été une identité éclatée. Pourquoi ? Mais parce que vous avez une identité juive nationale avec le sionisme, vous avez une identité juive religieuse avec les orthodoxes ou les ultra-orthodoxes, vous avez une identité, comment dirais-je, juive, je dirais, folklorique, avec, par exemple, le maintien de certaines traditions festives, culinaires, vous avez aussi une identité juive, je dirais, linguistique, avec par exemple le yiddish, qui est l'expression du judaïsme ashkénaze, et vous avez aussi des gens qui sont très attachés au ladino, au judéo-espagnol, voire même au judéo-arabe. Et tout ça doit coexister et cohabiter dans un même territoire qui n'est pas plus grand que deux départements français de taille moyenne. Ce qui fait que vous avez des différences, mais pas des divergences. Vous avez des changements, mais pas des oppositions.
Ashkenaz et Séfarad se sont toujours défendus de cultiver un certain racisme les uns envers les autres. Pour eux, leur différence réside dans leur tradition religieuse, mais pour Maurice Rouben Ayoun, il s'agit encore d'un autre type de clivage.
Je crois que c'est surtout des différences sociales. Les couches de la population séfarade qui émigrèrent à partir de 48-49 en terre d'Israël n'étaient pas composées comme le judaïsme allemand ou polonais, rescapés de la Shoah, d'ingénieurs, de professeurs, d'avocats, de gens qui avaient une éducation, disons, raffinée et une culture universitaire approfondie. En plus, vous savez que la structure familiale des familles juives d'Europe se rapproche beaucoup des familles européennes tout court. c'est-à-dire ce sont des familles où il y a le papa, la maman et un ou deux enfants, au maximum trois. Or, ces familles de juifs orientaux, notamment d'Afrique du Nord ou d'Orient, du Moyen-Orient, voire même d'Iran, étaient des gens, et c'est normal, on ne peut pas le leur reprocher, qui avaient le même mode de vie, si je puis dire, qui était calqué sur le mode de vie environnant, c'est-à-dire des familles avec un régime patriarcal, des familles nombreuses. Et lorsque tous ces gens ont émigré en terre d'Israël, dans l'État d'Israël, il y a eu cette espèce de confrontation entre des traditions typiquement européennes et des traditions radicalement orientales. Alors, au début, il y a eu pratiquement une sorte de racisme ethnique, c'est-à-dire que on parlait des émigrés d'Afrique du Nord en disant que c'était les communautés d'Orient, Edot HaMizrach, ce qui était quand même assez péjoratif. Et on parlait de la Aliya, c'est-à-dire de l'immigration d'Europe. Et il suffisait de voir quels étaient les généraux de Tsahal, quels étaient les ministres, quels étaient les présidents de la République d'Israël, quels étaient les présidents du Parlement, quels étaient les professeurs d'université. C'est seulement avec l'arrivée de Menachem Begin au pouvoir que les séfarades, comme on les appelle, ont eu accès au gouvernement et ont commencé à s'organiser jusqu'au point de constituer, comment dire, une partie de l'électorat qui compte.
En 1948, Israël est en effet créé par et pour les Ashkénazes. Aujourd'hui, l'assimilation des Juifs orientaux est loin d'être parfaite. Par exemple, sur les 11 sages de la Cour suprême, on compte seulement un séfarade.